La barge russe, tous les jours, maintenant. Hey, hey, well, jolly to your bag, and a bag of love and all that, yes, and I thank you very, 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 very much. Sur JetFM,
Barge Russe 1059, 1059, le soleil gris, avec notre invité
Guillaume Talvas, tu m'as fait peur.
Et oui, c'est un jump scare.
Voilà, exactement, je m'y attendais pas.
Alors, un jump scare, c'est quoi? Je viens de l'apprendre.
Un jump scare, c'est ta peur, c'est au cinéma, il y a quelqu'un qui surgit ou quelque chose et ça te fait sursauter. Donc c'est un grand sujet sur Internet, il faut regarder sur YouTube, tout le monde ne parle que de ça. Il y a beaucoup de choses là-dessus, sur le fait de comment ça se crée et comment ça devient supportable dans les films d'horreur, d'en mettre en permanence, parce que c'est presque... les films, de temps en temps maintenant, en horreur, ont tendance à ne plus jouer sur une ambiance, une atmosphère qui va s'étaler sur le temps, comme, je sais pas, Rosemary's Baby, où d'un coup, il n'y a rien, mais au contraire, faire du tape à l'œil, quoi, du tape à l'œil et du tape à l'oreille.
Ouais, et donc, davantage que de donner des atmosphères de peur.
Oui, parce que c'est long à faire, c'est compliqué. Ouais. Alors que quelqu'un qui surgit et qui fait bah, ça c'est plus facile.
Ouais, c'est ça. Donc là, on a affaire à la modernité.
Oui, après, alors, je regarde pas énormément les nouveaux films d'horreur parce que souvent, en fait, je trouve ça assez déceptif. Voilà, j'ai regardé Smile là il y a pas longtemps.
Ah, c'est un extraterrestre qui arrive bientôt.
Ouais, j'ai sursauté encore.
Oui.
ça n'arrête pas. Et j'ai l'impression que c'est toujours un peu construit pareil et qu'il y a pas, il y a très peu de nouvelles idées qui arrivent dans la mise en scène dans ce genre de film. Il y a eu un petit moment de Jess Wan qui faisait des choses bien intéressantes, notamment au niveau des jumpscares. Et qui arrivait à les amener de manière un peu...
Qui ça, tu dis?
James Wan, c'est un réalisateur américain qui a fait plein de films.
Ah oui
celui-là, tu vois, c'est lui. Insidious, il a fait des trucs très mauvais chez DC aussi, des trucs comme Aquaman, ce genre de choses.
Ah oui.
Enfin, très mauvais, enfin, c'est des espèces de fonds d'écran Windows qui bougent partout avec plein de couleurs. Très long, tout numérique, ou juste même quelqu'un qui est sur le bord d'une jetée, au bord de l'eau. C'est un plan qui n'est pas trop compliqué à faire. C'est fait en studio. Ouais. Tout est faux, quoi. Fait très faux.
Okay.
Comme si tu regardais juste des pixels, comme j'ai l'impression de voir des fonds d'écran de pixels comme ça qui se baladent.
C'est pas forcément agréable. À voir, quoi.
Bah, c'est-à-dire que c'est pas le cinéma avec lequel j'ai grandi, c'est pas ce qui m'intéresse actuellement.
Mais est-ce que ça intéresse des gens, tu crois?
Bah,
ça dérange pas des gens maintenant une qualité comme ça, vraiment inférieure, si on peut dire inférieure ou moindre, quoi.
Bah, c'est des films qui font des entrées, donc quelque part, ça doit.
Et comme c'est ce qui marche, les producteurs, c'est ce qu'ils veulent un petit peu, Ils cherchent pas forcément une histoire et un acteur, ils cherchent du pognon, quoi. Non?
Oui, bah ça a toujours été un peu le cas. Enfin,
davantage, quoi.
Bah, je sais pas, même quand le nouvel Hollywood s'est développé, c'était aussi une histoire de pognon.
C'est quoi le nouvel Hollywood?
Alors, le nouvel Hollywood, c'est le cinéma hollywoodien des années 70, enfin 60, 70, où il y a un moment où Hollywood, les producteurs, n'arrivaient plus à faire des films et à attirer les gens en salle. Ça ne marchait plus. Ils comprenaient pas, ils dépensaient des fortunes en marketing, en tout, ça ne marchait pas. Et puis il y a eu Easy Rider, donc qui a été fait avec une somme modique par deux mecs complètement déchirés qui traversent leur moto et ça a rapporté des millions. Ouais. Et donc les mecs se sont dit, ok, bon, nous on sait plus faire.
Ouais.
Les pontés hollywoodiens se sont dit, donc on ouvre les vannes, on prend tous les marginaux qui sont dans le coin et tout, on leur file pas beaucoup de thunes, ça va nous rapporter plein de pognon. Et voilà, et on y va. Et donc, ça a été une période de créativité assez dingue où Les mecs avaient des budgets pour faire des films. Enfin, c'est des choses qui... Il y avait des vraies prises de risque, quoi.
Oui, c'est ça. Et ça, bah, maintenant, ça a disparu.
Bah, c'est
Oh,
compliqué.
non, on donne toujours rien au réalisateur, mais... Oui, t'es réalisateur, c'est ça?
Oui, je suis réalisateur-monteur,
Notamment.
notamment. C'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent,
Ouais.
mais je suis monteur de base, ciné, télé, pub, un peu tout. Mais du coup, mon métier, c'est de m'interroger sur l'image,
D'accord.
sur comment représenter les choses, comment les assembler, surtout en montage.
Donc, tu as peut-être des choses à nous dire sur Massacre à la tronçonneuse?
Sur Massacre à la tronçonneuse, bah, sûrement. Après, il y a tellement de choses qui ont été dites sur Massacre à la
Et, bah
tronçonneuse.
oui.
Massacre à la tronçonneuse, c'est un film où il n'y a pas de sang.
Ouais, c'est ça qui est dingue. Hein.
J'ai lu très récemment un article qui était pas mal, qui disait que c'est un film qui a beaucoup aidé les végétariens.
Ah oui.
Parce que ça, en fait, vu que les gens sont traités comme des animaux qu'on amène à l'abattoir, et qu'il y a cette scène de repas très longue en famille,
Oui, qui fait froid dans le dos.
qui est un peu stressante,
Ouais.
ça a donné à beaucoup de gens l'envie de devenir végétarien
Ah ouais.
et d'arrêter de tuer des animaux. Je trouvais que c'était marrant comme angle auquel j'avais jamais pensé,
Ouais, comme
comme
quoi, ouais.
peut-être le plus grand film de végétarien au
Ouais,
monde.
c'est ça. Ouais, là, comme vous disiez tout à l'heure, là, ça supprime la volonté d'arrêter de manger de la viande, quoi.
Ouais.
On ne peut plus avoir du jour au lendemain une volonté nous disant j'arrête de manger de la viande. On regarde le film et on n'a plus envie, quoi.
Voilà, après, peut-être qu'il faut le regarder plusieurs fois. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, tu regardes Massacre à la tronçonneuse pour te mettre bien pour la journée. Et voilà, après, j'ai pas vu les autres, le 2, le 3, tout ça. Donc, je sais pas si ça marche aussi bien sur les autres. Le premier est tellement. Enfin, c'est une
Oui,
telle réussite,
mais ouais,
c'est.
j'ai beaucoup, moi aussi, mais il m'a vraiment pas traumatisé, mais scotché, quoi. On s'en rappelle, quoi.
Ouais, c'est crasseux. Tout est crasse, tout est poussière, tout est
Ouais.
sueur, on le sent, la moiteur, et
Oui, c'est
c'est.
vrai. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est ces jeunes dans la fourgonnette, et puis avec l'handicapé. Tu sais, et ça m'a. Enfin, j'imagine bien Puis j'ai pas. Plus ou moins vécu des choses analogues, quoi, tu vois, c'est...
Ah oui.
Non mais, sans aller avec la tronçonneuse, hein. On s'en va, plusieurs en voiture ou en fourgon, et puis... Enfin, je veux dire, des moments comme ça, avant, tout commence, quoi, quand ils sont sur la route, et puis ils s'arrêtent dans une perdue, là. Et puis, enfin, ouais, je vais pas raconter le film pour ceux qui l'ont pas vu, mais je veux dire, tout le truc, enfin, je me rappelle de beaucoup de scènes, quoi, tellement ça m'a...
Et c'est un film qui est vraiment pas sanglant, mais ce qui est marrant, c'est
Ouais.
que c'est typiquement le genre de film que tu peux pas faire sur fond vert.
Ça veut dire
Parce
quoi? Ah oui, fond vert,
qu'il faut de la
d'accord.
matière, en fait.
Ouais.
Il faut de la matière, il faut le décor, il
Ouais,
faut.
c'est ça.
Et en fond vert, bah, t'as pas de matière, c'est de la
Mais ça...
matière
Ouais,
numérique,
c'est
quoi.
ça.
C'est pas tangible.
Mais ça a été fait en 70, donc c'est vieux
Ouais.
ça, donc il n'y avait pas de fond vert, quoi, enfin très peu.
Non, il y avait des incrustes. Les incrustes, ça existe depuis
Ouais.
Méliès, quoi.
Ouais, c'est ça, mais je pensais à lui, ouais.
Après, il y a différents systèmes d'incrustes. Il y a Henri Alcan qui a mis tout un système en place avec des miroirs, des choses pour faire les incrustations en direct. Donc le fond vert, où il y a un moment il y avait des fonds jaunes. Enfin, tout ça, c'est une lente évolution du cinéma.
Non mais attends, parce que je reviens à Massacre à la tronçonneuse, tu disais il n'y a pas de sang, mais les Dents de la Mer c'est pareil. Ouais, tu vois, il n'y a pas de sang et pourtant, enfin, très peu de sang, tu vois, dans l'eau, quoi. Mais c'est pareil, la montée. D'ailleurs, Spielberg avait beaucoup aimé Massacre à la tronçonneuse, il l'avait dit apparemment, c'est ce que j'ai lu.
Oui, c'est peut-être pas, mais Spielberg a un vrai talent de l'image. Là, ça, on n'invente rien
Ouais,
en disant
c'est
ça,
vrai.
mais c'est-à-dire que moi, il y a un plan qui m'a toujours marqué dans Les Dents de la Mer, que je trouve c'est un plan de génie, qui est une idée de mise en scène incroyable, mais qui implique de s'y intéresser très tôt, c'est dans le choix du bateau. Le choix du bateau qui est trop petit, mais c'est surtout que pour passer de l'avant à l'arrière du bateau, tu es obligé de marcher le long du bord du bateau. Il n'y a pas de
Ouais,
coursive.
ouais, ouais.
Et donc, à chaque fois que quelqu'un passe de l'avant à l'arrière, il y a un gros plan sur le pied qui est juste au-dessus de l'eau. Et donc, à tout moment, la personne peut glisser et tomber dans l'eau.
Ah ouais.
Et c'est juste, c'est pas grand-chose, mais c'est milliers ouais. d'idées comme ça.
Ah oui, d'accord. Ah ouais, des petits détails qui font tout, quoi.
Et ça se joue en pré-production, dans le choix du bateau, quoi.
Ouais, bien sûr.
Parce que
d'ailleurs, Lego va sortir, ou a sorti ce bateau du capitaine, je ne sais plus comment il s'appelle.
Ah.
Il l'a sorti avec le gros tchak, le gros requin. Ils l'ont sorti, ou ils vont le sortir bientôt, Lego.
C'est marrant, comme quoi Lego, en fait, vend aussi beaucoup aux gens de 40-50 ans, quoi.
Bah, carrément, ouais.
Parce que ça, c'est fait pour des gens comme moi, ou
c'est ça, oui.
Nous, c'est pas fait pour les enfants,
non,
tout à fait.
Non, parce que là, enfin... je lui dis pas, ouais, personnellement, je lui dis pas regarder, mais il dit, ah, mais si, j'ai... Ouais, il voit des petites scènes, ah, si, j'ai vu quand le requin, il mange un... Hein. Je dis, oui, mais c'est pas ça, en fait. Les dents de la mer, il faut que tu regardes tout, parce que c'est... ça te prend au trip, quoi, ça te... Quand tu regardes le film en entier, tu n'auras plus envie d'aller à la mer pendant un an ou deux.
Vaut mieux, moi, c'est pour ça que mon fils aussi, j'ai dit, on va le regarder, mais en hiver, au début de l'hiver. Le temps qu'après, il y a un temps de digestion.
C'est pas mal. Ah oui, je vais dire la même chose.
Et puis, alors moi, j'adore en plus le scénario, parce que c'est quand même, c'est, en dehors de l'histoire de requin, c'est l'histoire de la place de l'homme dans la société. C'est-à-dire que le héros, c'est un flic qui est sur une île. Et c'est le seul à ne pas être un insulaire.
Oui, oui, oui.
Donc, et tout le monde le lui fait bien comprendre à chaque fois. Il est séparé et il n'arrive jamais à trouver sa place. Et en fait, dès qu'il veut alerter, c'est son rôle. Dès qu'il veut fermer
l'abeille,
il y a toujours le maire qui arrive et qui lui dit « Non, mais c'est bon, tais-toi, on s'en fout. » Et il se tait, quoi. Et c'est un héros qui se tait, il n'arrive pas à trouver sa place, il n'arrive pas à s'imposer. Et en fait, il arrive à s'imposer dans la ville une fois que il y a vraiment tout le monde a bien vu le requin et tout, qu'il faut y aller, et qu'ils prennent le bateau pour partir à la pêche. Et là, c'est pareil, ils se retrouvent dans une nouvelle société, une nouvelle micro-société avec l'océanographe et le tueur de requins, le pêcheur.
Ouais.
Et en fait, les deux qui sont à la base opposés deviennent potes, et lui est toujours exclu.
Ouais.
Il est toujours, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse scène où ils se montrent leur cicatrice et ils finissent littéralement l'un sur l'autre, quoi.
Ouais.
Ils sont vraiment, c'est presque une rencontre amoureuse, c'est
vrai,
quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et lui, il est séparé, il est à part. Et il y a plein de moments où il n'ose pas, on lui dit, tiens, tu vas à l'avant. Et il dit, non, il n'y va pas. C'est lui qui fait les basses œuvres, qui jette les cadavres de poissons dans l'eau avec ses requins. Ouais. J'imagine que c'est lui qui fait la vaisselle. il doit...
qui lave le linge.
Voilà, et c'est tout à la fin qu'il devient le héros une fois qu'il est tout seul.
Ouais.
Mais il a...
une fois que tout le monde est mort.
Une fois que tout le monde est mort, il n'a pas le choix, donc il est mort.
Ah oui, t'as raison.
Mais c'est l'histoire aussi de cet homme et de sa place dans la société, comment il arrive à...
Du nouvel arrivant, quoi.
Oui, qui est rejeté. C'est vraiment un truc d'insulaire. Ça, j'en ai parlé avec des gens de l'île de Ré, tout ça. Ouais. Il y a vraiment les îlets. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais... il y a vraiment un esprit, enfin, tu peux arriver à l'âge de 4 ans et passer ta vie dessus... Tu ne seras jamais un vrai insulaire comme ceux qui y sont nés, quoi.
Ah, ok. Wow.
Alors, nous venons d'écouter... Oui, je suis... Bien sûr, écoutez, je suis très content quand je vois de participer à votre chronique, Johnny Tebeck, Assault on Precinct 13, qui est assaut au commissariat numéro 13, de John Carpenter, du même film, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup ces émissions sur le Nouvel Hollywood, mais moi, comme vous savez, j'ai plusieurs références de ce nouveau Hollywood. Mais je vous écoute, c'est très intéressant, ce Guillaume Talvas. Vous pourriez-vous me le faire rendre? Mais bien sûr. Mais allez-y, continuez, c'est percutant. J'aime beaucoup vous écouter. Allez-y. Ah, mais merci beaucoup. Donc on a écouté, comme a dit le professeur Schmidby, Carpenter, Assault on Precinct 13. Et donc,
Assaut.
Le film Assaut, que je n'ai personnellement pas vu, mais que Guillaume Talvas a forcément vu. Et je lui laisse la parole.
Oui, évidemment que je l'ai vu. Évidemment, je l'ai vu de nombreuses fois et je lui pique. Parce que l'intérêt de regarder des films et quand on est réalisateur, c'est le vol.
Ouais.
Non, c'est pas l'inspiration, c'est du vol.
Ah,
il faut y aller, c'est du vol, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est et tous les grands réalisateurs sont eux-mêmes de grands voleurs.
Ouais.
Forcément. Hein,
ils n'auraient pas tous ces DVD chez eux, d'ailleurs.
Oui, comme disait Bernardin de Chartres, on se hisse sur les épaules des géants, ceux qui nous ont précédés. Et ça nous permet de voir
d'aller
un peu plus loin.
Ouais.
Voilà, Spielberg ne serait pas aussi bon s'il n'y avait pas eu Hitchcock avant,
ouais,
à mon avis.
Ouais.
Et donc moi je fais des petits films, des petits courts métrages. Hein. Je suis pas, voilà, mais effectivement, par exemple dans Assaut, là j'étais en train de me demander est-ce que je storyboard tout, je tourne un court métrage là bientôt en octobre, et j'étais en train de me demander comment faire parce que j'ai une espèce de GIGN du rire, ça s'appelle les Brigades du Rire, qui attaquent à la fin, qui font l'assaut d'une station-service dans laquelle sont mes personnages, mes protagonistes. Et en fait, je me demandais comment les faire, parce que vu que j'ai pas d'argent, j'ai pas vraiment de quoi avoir des gros costumes, des grosses armes et tout. Et donc, je vais sans vergogne pomper Carpenter, la façon dont il représente, notamment dans l'assaut, les gens courant au fond, quoi, un peu comme des ombres qu'on aperçoit à peine. Et donc, ça me suffit à figurer... un peu cette brigade.
D'accord.
Pour le coup, du coup, je n'ai pas besoin d'avoir des gens habillés avec...
En
GIGN, voilà, on réglera... si j'ai besoin, je réglerai un petit peu des petits trucs à l'étalot, machin, on va voir comment le tourner.
L'étalot, c'est quoi?
L'étalonnage.
Ah, l'étalonnage.
C'est, c'est quand tu retouches l'image à la fin, en couleur et en luminosité. Et à la base, ça permet d'unifier le film. Voilà, éviter d'avoir une image plus claire, plus sombre, entre les plans. Et après, évidemment, ça raconte aussi, on peut raconter des choses avec les couleurs et les lumières, donc tu embellis encore l'image ou pas, enfin tu la retravailles de manière à avoir un discours, que ça raconte quelque chose ou que ça transmette des émotions. Et maintenant, les étalonnages sont assez poussés, hein, ça peut être, on n'est pas très loin d'être des effets spéciaux. C'est-à-dire que tu peux faire des masques, des choses, et retravailler précisément ton image.
D'accord.
Et voilà, et c'est peut-être quelque chose que je ferai avant, parce que je fais aussi la plupart des effets spéciaux sur mes films, et donc je vais aussi retravailler ça, quitte à accentuer le côté ombre ou silhouette.
Ok, mais je pense que... Là, je pense que c'est difficile pour nous, auditeurs, parce que moi, je vois pas trop les scènes, vu que j'ai pas vu le film de Assaut, et puis toi, ce que tu as en tête de ce que tu vas tourner. Mais j'imagine, selon ce que tu dis, je pense voir de quoi tu parles.
Oui, c'est juste que, en fait, je vais te donner un exemple de quelqu'un qui est assez malin pour ça, c'est Ridley Scott. Par exemple, quand tu as Gladiator.
Ouais.
Il
y a le 2 là qui va sortir.
Ouais, on y va. Je suis pas sûr, certain. mais donc le premier. Enfin, pourquoi pas, je sais pas. On verra un jour. Et donc, dans le premier, ils sont. Maximus est dans l'arène, milieu, entouré de soldats romains.
Ouais.
Qui peut savoir s'ils vont le buter ou pas. Et en fait, il y a un plan où on le voit lui, et on voit quelques soldats en tenue derrière, et juste en entrée de champ, devant, il y a des pointes d'épée.
Ouais.
Donc on se dit, les pointes d'épée, ce sont des soldats en armure et tout. Mmh. En fait, ce sont des techniciens en short qui ont juste l'épée. Enfin, tu n'as pas besoin.
Oui,
juste
oui,
le bout
oui.
de l'épée signifie, c'est une litote, quoi. Ça signifie la personne entière.
Ouais.
Et en fait, c'est ce genre de choses qu'on peut aussi voler en se disant, ah, c'est une super idée, ça. Et on réadapte, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et c'est un peu le principe chez Carpenter. C'est quelque chose, je me dis, ah, visuellement, ça me permet de figurer ce que je veux faire. Pour pas très cher,
ouais.
Et sans avoir besoin d'avoir une troupe de comédiens suréquipés, ouais, ce que je ne veux pas m'offrir.
C'est un peu la même chose, il n'avait pas trop de sous, lui. Enfin,
Malheureusement, il a pratiquement jamais eu de thunes.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il en a gagné beaucoup, notamment avec Halloween et tout ça. Et il a eu une fois un énorme budget, The Thing.
Ouais, ouais, tu veux dire.
Qui, malheureusement, s'est vautré totalement.
Ouais.
Nous avions déjà parlé de ça une fois. Et voilà, et du coup, après, il a jamais eu deux budgets aussi énormes que The Thing, qui est chef-d'œuvre, mais qui malheureusement s'est totalement planté, qui est sorti en même temps que E.T. Que...
Ouais, donc c'était pas le bon moment. Ouais. Ah ouais, s'il n'y a pas de bon moment.
Ou ça a été mal vendu, ou je sais pas. Mais
c'est ça.
Bon. Et du coup, oui, c'est le roi de la débrouille.
Ouais.
Et il a, en tant qu'artisan. Et
on le voit là sur la photo.
Oui, c'est le roi de la débrouille, ouais, c'est marqué sur son visage.
Spielberg, non. Moins. Il est plus fils à papa. Moi, je
trouve. Je sais pas, il se débrouille bien, Spielberg, c'est un malin. Moi, je pense qu'il n'est pas...
Oui, bien sûr. Non, mais je dis ça un peu en l'air, mais bien sûr que son visage reflète un peu du génie, quand même. Mais oui.
Mais disons que la différence, c'est que Carpenter a toujours galéré,
j'ai
eu des thunes, et Spielberg a eu, lui, des moments où c'était le roi d'Hollywood.
Ouais, c'est ça.
Plus que tout le monde, s'il montait les projets, les mecs comme Joe Dante, Robert Zemeckis, se mettaient sous son aile, il les prenait en protecteur, il disait non, lui, il fait ce qu'il veut, vous le lâchez. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu des films comme Les Gremlins, comme Retour vers le futur...
Ah oui, d'accord.
C'est parce qu'il y avait tonton Spielberg qui protégeait et qui permettait aux mecs de s'exprimer comme il voulait.
Ah oui, donc en fait, j'aurais peut-être pas dû lui raccrocher au nez.
Il aurait pu t'aider.
Il aurait pu m'aider, donc merde. Ok, that's alright, that's alright. Et donc. Est-ce que vous pouvez demander à Monsieur Talvas, n'est-ce pas, si il a eu d'autres, il a volé, comme dit Comédie, c'est très amusant d'ailleurs, il a volé d'autres réalisateurs. Allez, est-ce que vous pouvez demander? Mais bien sûr, j'y vais. Guillaume, est-ce que tu as volé d'autres trucs à des réalisateurs?
Ouais, évidemment, la liste serait trop longue.
Oui.
Ça serait trop longue, mais par exemple, sur un de mes premiers courts-métrages que j'avais fait, totalement pillé Hitchcock, dans son dernier film, comment ça s'appelle déjà, avec le tueur à la cravate. Un trou de mémoire, ça va revenir. Parce que dedans, le tueur agresse quelqu'un, et en fait, il fait la caméra est un peu au sol, il fait une sortie de champ vers le haut, il se lève, et donc sa tête sort par le haut. Et là-dessus, la caméra reprend plus haut et il y a l'entrée de champ de bas en haut. Et en fait, ça fait un raccord hyper dynamique. Et donc ça, j'ai piqué directement et je l'ai adapté dans un film sur un homme qui attendait, qui faisait du stop sur le bord de la route avec une pagaie et un bidon d'essence.
Oui, oui.
Voilà, et il se mettait sur le bord de la route pour fumer une clope, et d'un coup, il y a une voiture qui arrivait, donc il se relevait et j'avais utilisé ça pour le faire se lever, quoi, pour avoir hyper dynamique.
J'ai l'impression, d'accord. Ah oui.
Parce que c'est. Il faut pas hésiter de toute manière.
Mais là, tu parles de tes premiers films. Tu m'avais dit que tu avais fait un film sur Heidegger et les nazis ou un truc comme ça.
Non, j'ai filmé avec un ami philosophe, Gaëtan Penny. Ça a été filmé Jean-Pierre Fay, Emmanuel Fay.
Ouais, on parlait de Fay. Ouais.
Voilà, c'est mon seul rapport. C'est un peu mon seul rapport à la philosophie que j'ai jamais eu. Donc voilà, il m'a rappelé là récemment pour ressortir le film par rapport à Jean-Pierre Fay, qui n'est plus tout jeune, d'après ce que je...
98 ans, je crois, j'ai vu.
ça conserve de faire de la philo.
Oui, oui. Ouais,
moi, j'ai peur pour moi. Du coup, je vais pas vivre vieux.
Un peu pareil, toi. Et oui, mais Emmanuel Faye a d'ailleurs écrit un livre, Heidegger et le nazisme. Il a écrit un bouquin.
Oui, 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 je crois. Je me rappelle.
Moi, je l'ai eu. Je l'ai plus, mais je l'ai eu.
Moi, je ne l'ai pas eu. J'ai rencontré ces éminents personnages, très agréables et tout, mais je ne peux pas être pertinent sur la philosophie.
Après, je n'aimais pas trop son style d'écriture, mais donc, je n'ai pas pris grand-chose dedans. En tout cas,
Est-ce que toi, tu voles, en tant que philosophe, est-ce que tu voles les idées?
Je m'appuie des idées pour donner mon interprétation, qui souvent est la même, mais la philosophie, ça ressemble en fait. On se prend la tête pour pas grand chose, des trucs qui servent à rien. Mais là, je dans mes émissions là, les précédentes, j'ai l'impression vraiment de, mais c'est personnel, parce que c'est un travail que je donne sur un truc qui pour moi me paraît essentiel, mais que pour les autres ça paraît complètement je pense que c'est. Quand je parle de révolution intérieure, les mecs, j'ai beau l'expliquer, cette révolution, comment la faire, pour aider, mais même si c'est trop grand de dire ça, mais partager, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose, parce que chacun, au contraire, doit arriver à cette révolution tout seul, quoi. Moi, je le dis souvent, je partage mes barges russes, c'est mes partages de mes recherches à la réponse, donc c'est vachement égoïste même, ce que je fais, mes émissions, c'est ça.
Donc, globalement, tu dis que tu fais quelque chose dont tu sais que ça ne sert à rien.
Ouais, ouais, mais qu'à moi, ça sert.
Ben, c'est très bien.
C'est une quête personnelle que je partage, voilà, c'est ça que je dis.
Donc, on peut suivre une quête.
Voilà.
Que ça nous donne envie de faire notre propre quête.
Ça, ce serait. Ouais, voilà, c'est ça le but, exactement.
Bon, ben, c'est exemplaire, c'est bien.
Ouais, exemplaire.
Et moi, je te parle de vol. Écoutez, de pillage des bonnes idées.
Des vols qui sont. Punissable ou quoi?
Non, parce qu'une idée ne peut pas être dépassable, et heureusement, parce que sinon, quand Griffiths commence à faire le montage alterné, amène le montage dans une autre, dans une nouvelle ère avec Naissance d'une nation, si d'un coup tout le monde se dit ah, tu sais ce qu'il a fait, c'est super, mais on ne peut pas reprendre parce que c'est vraiment lui qui a fait ça, nous on va rester à faire le cimetière. À ce moment-là, ça n'évolue plus.
Mais justement, la révolution, c'est intérieur, quoi. Tu te sers de ça pour toi t'élever. Donc, ouais, non. Je pense que. C'est pas comme si tu voles le DVD à la Fnac, quoi. Là,
non.
Ça craint un peu plus, quoi. Mais, et encore. Parce que c'est que la Fnac, quoi. Hein. Ce serait un mec qui aurait son magasin, là, ça me ferait mal au cœur. Mais la Fnac.
Ah, je sais pas si. Ils ont quand même des bonnes choses.
Oui, ils ont des bonnes choses. Non, mais c'est la Fnac, quoi. Ouais, c'est ce que je dis. Je dis pas le film. Non, c'est la Fnac.
Et en même temps, pour pouvoir voler des idées, il faut voir les films.
Oui, c'est ça. Bah oui,
donc, et comment on fait pour voir les films?
Voler des fois. je blague.
Non, c'est un vrai conseil. Dans votre quête,
allez. Il y a plein de films. Et voilà. Donc, est-ce que tu aurais. Parce que moi, j'ai vu, tu m'as envoyé. D'ailleurs, j'étais très content quand tu m'as envoyé ton dernier film. Qui était...
Apologie des zèbres albinos.
Ouais, dont on va parler si tu veux, si tu le souhaites. Et puis aussi, le scénario.
Du prochain.
Ouais, à ça, j'étais très content parce qu'un scénario, je savais pas vraiment à quoi ça ressemblait, je n'avais jamais lu. Parce qu'une fois, j'avais failli tourner un film, mais bon. Au dernier moment, il avait dit non, t'es mauvais.
Ouais, alors ça, c'est au résultat final pour le conseil.
J'avais jamais vu.
Mais un scénario, c'est un outil de travail. C'est normal qu'on ne les voit pas parce que ce n'est qu'un outil de travail.
Par curiosité, par intérêt, voir à quoi ça ressemblait.
C'est-à-dire qu'il y a plein de scénarios qui sortent, qui sont édités. On va sortir le scénario de la règle du jeu, de tout ça. Mais en fait, ce ne sont pas les scénarios. Ce sont des écritures. C'est en fonction du film. C'est pas le scénario original qui a permis à Jean Renoir de travailler et aux acteurs et aux techniciens, au chef-op, à l'ingé son. Ce sont des réécritures après coup, en fonction du film, du montage, parce que quand on lit le scénario, on peut avoir accès à plein de scénarios sur le site du CNC. Ils ont une scénario tech où ils mettent justement les scénarios comme outil de travail avant,
à disposition.
Ouais, voilà, avant le tournage ou pendant le tournage. Donc, potentiellement le scénario que le CNC a reçu pour demander de l'aide, une avance sur recette ou autre pour faire le film. Et donc souvent, là, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de différences. Il y a des scènes qui sont enlevées, il y a des scènes qui sont coupées en deux, qui sont mises à un côté, à machin. Le film ne commence pas pareil. Ou ils ont changé sur le tournage, ils ont changé les dialogues.
Et là, tu m'avais dit justement en off, au 2F, que le monteur, c'était bien que ce ne soit pas le réalisateur.
Ouais, alors il y a pas de chance que ça permette.
Si, pas dans tous les cas, forcément. Mais...
Généralement, c'est mieux. Enfin, c'est ce qui est conseillé parce que ça permet déjà d'avoir un œil extérieur par rapport à quelqu'un qui est dessus depuis des années, qui a été sur le plateau, donc qui a une connivence avec les acteurs. Le monteur, il connaît pas les acteurs. Moi, ça me fait bizarre des fois de rencontrer des acteurs que j'ai vus pendant des mois parce que j'ai monté le film. Et je rencontre cette personne, moi je connais par cœur, je sais comment elle parle, je sais comment elle respire, je sais comment elle se déplace, je sais tout, vraiment de tout. Et cette personne en revanche ne m'a jamais vu, ne sait pas qui je suis. Et donc il y a
là tu sens le mouchoir avant qu'il éternue.
Je sais ce que tu vas dire, je sais comment je connais tes tics. Ça c'est très gentil, mais et donc c'est important que le monteur ne soit pas le réalisateur aussi, dans le sens où il y a un exemple souvent qu'on donne, c'est en tant que réalisateur, tu dis j'ai besoin d'un plan de la montagne et tout. Donc les mecs, ils crapahutent à 4 du mat dans la nuit pour escalader la montagne, c'est l'enfer et ils en chient. Et là, il y a le lever de soleil, ils arrivent à voir leur plan, ils sont trop contents, le plan est magnifique et tout. Et on arrive en montage, donc il faut mettre le plan parce que on a galéré pendant des heures et des heures pour réussir à avoir ce plan. Et là, le monteur, il regarde, il fait « Mais non, mais il sert à rien, ça coupe la narration, ça n'a aucun sens, il faut le dégager. » Sauf que le réalisateur, il ne peut pas le faire, ça. Il a un attachement sentimental à ce plan-là. Quoi. Alors que le monteur, lui, c'est un plan comme un autre, que tu aies galéré à le faire ou pas, aucun scrupule, quoi. L'important, c'est la narration.
Oui. Et par rapport au film que tu vas tourner, là.
Oui. Oui, donc tu me posais la question, le film. Donc ça s'appelait Soleil Gris. C'est censé être. Alors c'est un film un peu étrange parce que ça se passe en France dans le futur. La France est devenue une dictature du rire. Il y a une obligation de faire rire.
Alors, il sortirait quand ?
Alors ça, quand on pourra.
Mais ah oui, il faut le montage.
Voilà, il faut le montage. Et pour l'instant, j'ai pas assez de budget pour avoir un monteur, donc je vais devoir faire le montage et donc aller contre tout ce que je viens de raconter juste avant.
Donc pas de prise dans les montagnes.
Voilà, on va pas crapahuter au haut de la montagne. Tout mais on n'aura pas le temps. Et puis on tourne en Anjou, on tourne autour d'Angers, donc il y a pas beaucoup de montagnes. Okay. Si on a prévu de tourner une scène à la falaise de Mur-et-Rignier, donc il y a quand même un léger début de montagne. Mais bon, on va y aller en voiture, ça devrait aller. Puis il faut que j'ai les autorisations encore, c'est pas encore fait ça. On ne peut pas tourner un peu comme on veut, n'importe comment.
Donc on était au début.
De quoi parle le film ? L'histoire, donc c'est la France, c'est une dictature du rire. On est obligé de rire, de faire rire. Il y a des gendarmes qui font des contrôles d'humour, ils vous arrêtent en voiture, c'est bonjour, faites-moi rire s'il vous plaît. Et en fait, c'est l'histoire d'un. Et ça se passe dans le futur, ils ont changé le calendrier, c'est un calendrier humorien. Donc l'histoire se passe le 13 des proches 51, je crois, que j'ai mis. Et donc c'est l'histoire d'un couple de dépressifs qui vient de s'est rencontré dans un camp de redressement par le rire, qui vient de s'évader et qui essaie de rejoindre Saint-Nazaire. Pour prendre un bateau pour fuir, pour aller ailleurs. Vous avez des envies d'ailleurs, en Amérique du Sud, quelque part. Et sauf qu'ils n'arrivent pas à y aller parce que ils tombent que sur des gens qui leur font des blagues, ils leur demandent le chemin et les gens ils leur font soit des blagues, soit ils ne répondent pas. Et les panneaux de signalisation ont été changés aussi, où c'est que des blagues ou des fausses pistes. Et c'est, c'est un enfer total. Ils ont quelque chose de ce qu'on dirait kafkaïen, on va dire. Et je veux filmer cette fuite comme un polar, vraiment quelque chose hyper sérieux, hyper premier degré, et qui se termine très, très différemment de ce qu'on pourrait attendre. Je ne vais pas me divulgâcher la fin.
Oui, bien sûr.
Et voilà, je suis très impatient, on va tourner ça fin octobre.
Et tu disais
super
que,
acteurs, oui.
Ouais, au niveau des acteurs, tu as fait des castings, et que quand tu as envoyé aux acteurs que tu avais sélectionnés, différents acteurs, que les mecs avaient répondu du tac au tac, tellement ils avaient l'air, ils étaient très intéressés par ce sujet, qui en soi, moi, je trouve ça génial. Enfin, j'ai jamais vu ça, quoi.
Alors ça, je suppose, hein, je t'avais dit ça un peu en off, sur l'oreiller, on
oui,
va dire.
Ouais.
Mais,
sur l'oreiller.
Parce que
ça... Il a déjà commencé son film.
Voilà, ça fait un peu... je me vante devant Super Scénar en disant ça. Non, mais c'est le oui, la plupart des gens qui sont assez emballés à l'idée. Moi, je suis le plus emballé, d'ailleurs. C'est quand même...
Pardon.
Non, vas-y, je m'enfonce.
Même par rapport à celui que le truc zébré, là, c'est vraiment, c'est les idées que tu as, elles sont vraiment... Enfin, je veux dire, Spielberg n'y a pas pensé, ni Carpenter. Hein.
Non, mais après, ça de toute manière, les idées, là, j'étais en train de parler de mon ingé son l'autre fois, il me dit, ah bah tiens, t'as vu, il y a une série qui s'appelle Rictus qui vient de sortir, ça ressemble exactement à ça. Et je me dis, ah... Mais puis j'avais entendu parler, je me dis oui, mais dans Rictus, les mecs n'ont pas le droit de rire, quoi. T'as pas le droit de faire de blagues, tout ça, donc c'est autre chose. Quelque chose que je trouve personnellement moins intéressant, j'ai l'impression que ça a déjà été fait plein de fois.
Ouais.
Et en fait, je regarde la bande-annonce quand même pour me dédouaner, vérifier que je suis pas dedans, et là je vois énormément de trucs en commun, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à la base, je m'étais dit, tiens, ça serait bien que les vêtements, les costumes, ce soit du Demoiselle de Rochefort, mais 20 ans après, que les costumes aient eu le temps de vieillir, que ce soit un peu plus délavé. Et sauf que je regarde le truc, ils sont tous habillés en pastel et tout. Je me dis, ah merde, moi, je peux pas, il faut que je trouve autre chose.
Ouais.
Je peux pas habiller, je peux pas partir sur cette piste.
Ouais.
J'ai énormément de plans avec des drones, ça commence avec des drones, puis là, y a plein de drones dedans. Après, c'est des idées, c'est normal,
on
retrouve. Mais du coup, je me dis, ok, bon, ça me permet au moins d'évacuer certains trucs et de dire, bon, je ne vais pas les habiller en pastel avec des pulls de Noël ou je ne sais quoi.
Mais c'est, en fait, c'est une idée qui est dans l'air et que toi, tu as attrapé, que le réalisateur de Rictus a attrapé aussi, peut-être. C'est ça que tu veux dire?
Ouais, après, c'est, apparemment, c'est le genre de choses qui arrivent assez souvent. Là, j'écoutais une émission hier où il y avait Florian Emilio Siri, qui est un réalisateur français qui a fait l'ESRA, qui a fait un très bon film d'action, Edith Gep, il y a malheureusement 20 ans maintenant. Et en fait, il racontait qu'avec son prof de cinéma, que j'ai eu en prof de cinéma aussi à l'ESRA, Tarnowski,
je connais Tarnowski. Oui, il est trop gentil, cet homme.
Jean-François, il n'est plus là malheureusement.
J'étais assez plus.
Et donc là ils se disent ah ouais, on a une idée de film après Need Gap, on aimerait, ou c'était avant Need Gap, ça devait être avant Need Gap.
Need Gap 2.
Non, et c'était de faire un film sur la bête du Gévaudan. Et donc les mecs, super, on lance le truc et tout. Et là, au bout de peut-être un mois de développement, d'écriture, et quelqu'un qui appelle, alors en fait, il y a un canal qui va sortir un film sur la bête du Gévaudan de Christophe Gans avec Castel, tout ça. Tu fais ah, le pacte des loups.
Ouais,
pas de bol, mauvais timing.
Ouais, mais c'est parce que c'est des concours de circonstances où on a pu voler l'idée. Comment ça peut se passer?
Alors, justement, ils en parlaient là parce que Gans était critique chez Starfix et Tarnowski écrivait aussi des papiers là-bas. Et donc, pour Tarnowski, il disait ouais, mais il m'a piqué l'idée et tout. Apparemment, ce qui peut arriver aussi, c'est que Christophe Gans n'est pas à l'origine de l'idée, qu'on l'a appelé et qu'il est venu dessus. Donc, ce serait pas non plus du vol. Après, malheureusement, les idées, ouais, ça se... Puis, en même temps, faire un film sur la bête du Gévaudan, ça peut être tout et n'importe quoi.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que t'es pas obligé de faire un film sur la bête du Gévaudan en mettant des Indiens et du kung-fu dans le Gévaudan à cette époque.
Ouais.
Enfin, tu peux faire un film sur le Gévaudan, mais avec une autre proposition de cinéma. Après, effectivement, bon, je pense que les producteurs n'iraient pas si c'est un sujet similaire.
Bien sûr. Mais moi, de mon côté, j'ai même avec le monde diplomatique. J'ai l'impression qu'il me chourre des trucs. j'ai déjà dit à plusieurs fois, hein, parce que j'étais en discussion avec eux et je leur envoyais mes machins, mes émissions, qu'ils ont écoutées, hein, ça j'en suis sûr, parce qu'ils m'ont répondu par rapport vraiment à ce que je leur envoyais en audio, quoi. Mais bon, je me dis, là, peut-être que je me fais mes chevilles gonflent un peu. Mais bon, je veux dire, c'est possible quand même, quoi. Tu as une idée est bonne, ben on la prend, quoi. Après, les idées, on peut pas. Donc, j'étais assez content, mais en même temps, c'est dégueulasse, quoi. Mais bon. Et c'est que j'en sais rien, quoi.
Oui, après, il y a différents types d'idées. C'était tout à l'heure quand je te parlais de vol de plans, d'idées de montage, de choses comme ça. C'est il y a comment tu le voles aussi, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que
oui,
tu fais un vol
bien sûr.
intelligent?
Oui,
Est-ce que
oui.
tu l'adaptes? Est-ce que tu
Oui.
le changes?
Pour ta révolution intérieure.
Voilà,
Oui.
mais après,
Bien sûr. Oui.
si une idée comme. Pardon, faire un film sur la bête du Gévaudan, effectivement, si ça, toi, ça te plombe et que tu peux pas faire ton film après, derrière, il y a de quoi être en colère.
Ah ben là, oui, bien sûr. Oui.
Mais bon, c'est pas du tout apparemment ce qui s'est passé pour Christophe Gans. Hein. Je ne suis pas en train d'accuser
Oui.
Christophe Gans de plagiat.
Gans, c'est celui qui a fait le Pacte des Loups?
Ouais.
C'est ça, d'accord.
Merci.
Ça te dirait d'écouter un Lalo Schifrin?
Ah, mais
Ou alors,
évidemment.
tu vois, parce que là, tu m'as emmené plusieurs disques, mais...
Alors, moi, je t'ai amené François de Roubaix, je t'ai amené Lalo Schifrin.
Mais alors, lequel tu penses collerait le mieux, là? Le Harry ou le...
Sur le vol.
Bah, comme tu veux. Oui,
Mais partons sur un petit Lalo Schifrin, parce qu'il a été quand même pas mal
Ouais, très bon.
samplé.
Ouais.
J'ai découvert justement en écoutant là,
Ouais, tu me
ça,
disais. Oh,
un des albums Mission Impossible, Mort Mission Impossible,
Ouais.
et qu'il a été resamplé par Portishead pour faire un de
Ouais.
leurs plus gros tubes. Je l'ai laissé chez la platine chez moi, donc on ne peut pas
Donc on
l'écouter. Ce ne sera
l'écoutera
pas celui-là.
pas aujourd'hui.
Mais ah non, tiens, je sais. Je sais ce qu'on va faire, c'est la Symphonie
Ah
Fantastique.
oui. Vas-y, ouais. Explique
Voilà.
pourquoi.
Parce que Wendy Carlos, voilà, parce
Ouais.
que Wendy Carlos. Wendy
Walter,
Carlos
ouais.
qui a fait
Orange Mécanique.
Orange Mécanique et donc Shining,
Shining,
et
notamment,
notamment
et Tron.
et Tron
Le
aussi.
premier, le premier, ouais.
Et le seul, il n'y en a pas d'autre.
Si, il y en
Non,
avait un
non,
autre par
non, non, il n'y
Disney.
a pas
Non, mais oui, d'accord, oui,
Non, je
Lolo,
déconne.
qui est...
Que pas aussi dégueulasse que ça. Et donc, il a fait la musique de Shining, et
Ouais.
notamment cette fameuse musique
Qui est
d'ouverture
génial.
de cette petite voiture jaune au milieu des montagnes gigantesques. Et donc, c'est une reprise, une adaptation de la Symphonie Fantastique de Berlioz, et le passage du sabbat, je crois, sur la fin. Je vous propose d'écouter ça,
Ouais, on va écouter ça.
allons-y.
Ah ouais. Fantastique, fantastique, symphonie fantastique de Berlioz, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup, oui. Je sais que vous voulez, je dis. Oui, donc demain, il y aura la suite avec Guillaume Talvas, un réalisateur qui est passionnant. Bien voilà, suite demain, à la même heure, la Barge Russe. La Barge Russe, tous les jours. À 14h avec Denis Tuvebec.